En coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
L'Académie des inscriptions et belles-lettres a organisé, en partenariat avec la Société asiatique et l'Institut national des langues et civilisations orientales, un colloque intitulé « Voir et concevoir la couleur en Asie ». C'était le 11 et le 12 janvier 2013. Canal Academy vous propose d'écouter la retransmission de l'intervention de Jean-Marie Durand, professeur au Collège de France et membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Sa communication s'intitule « La couleur comme expression du sentiment ».
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, chers collègues, Mesdames et Messieurs, ce n'est pas sans une grande hésitation que j'ai accepté de présenter cette communication, car la couleur est à la fois très bien représentée dans les textes suméro-acadiens, et tout autant source de beaucoup de désillusions. Dans son exposé fondamental pour nous sur la couleur, nous assyriologues bien sûr, sur la couleur dans le monde suméro-acadien, qu'il a rédigé pour les mélanges Goetze, Benno Landsberger, une fois fait son inventaire, constatait en fin de présentation des données, et je vous cite ses propres termes, « diese Reihen sind enttäuschend », c'est-à-dire manifestement qu'il s'était donné beaucoup de mal pour rien. Cet inventaire était bien décevant. Il venait en effet de passer en revue, champ sémantique après l'autre, les différentes occurrences des supports de couleur. Et il avait regardé ce qui concernait les arcs-en-ciel, la lune en éclipse, les séries physiognomiques et diagnostiques, les cheveux et autres poils, la couleur des yeux, les différentes marques corporelles, le sang humain ou animal, la couleur du foie, la couleur de l'or, les toisons des moutons et les animaux. C'est-à-dire, c'était un programme qui était bien rempli. Dans tout cela, seules étaient attestées trois couleurs. Outre l'absence totale de bleu, Benno Landsberger ne trouvait mention que du rouge, du vert et du jaune, avec des intensités, surtout pour le rouge, variables. En fait, comme vous le voyez, Benno Landsberger avait porté son attention sur des textes très techniques, ceux de la divination et de la médecine. Quand vous voyez les arcs en ciel, naturellement, ça représente simplement les irisations qui étaient faites sur l'eau, où on avait versé de l'huile pour pouvoir prédire l'avenir. Donc c'était ça que le babylonien appelle par manzatum, c'est-à-dire l'arc-en-ciel. On peut dès lors se demander si l'absence de certaines couleurs ou la récurrence de certaines autres ne sont pas en fait motivées par le genre lui-même de ces textes. La partie d'un inventaire sur les diverses laines, c'est-à-dire l'avant-dernière, les toisons des moutons, faisaient apparaître le blanc et le noir qui manquaient ailleurs, mais naturellement, le bleu n'apparaissait toujours pas. Alors, le premier point que je voudrais regarder, ce serait quelle sorte de couleur peut-on trouver dans les textes acadiens. Il faut d'emblée faire une première réflexion qui a totalement échappé à Benno Landsberger. Il n'existe pas dans les textes acadiens de terme pour peintre ou pour tableau, mais uniquement pour teinturier ou teinture. Et c'est surtout à cette dernière réalité qu'appartiennent les couleurs. En revanche, il existe un terme pour dessiner qui est incisé et gravé. Et cela convient bien au support de l'écriture qui est sur argile en Mésopotamie. En Mésopotamie, on sculpte avant tout des représentations où on les dessine, quitte à les colorier ensuite. Mais la couleur n'existe pas indépendamment de son support. Elle est toujours couleur de quelque chose. Vous savez qu'à l'heure actuelle, une entreprise considérable vient d'être terminée, tant à Marbourg qu'à Chicago. Nous avons donc des dictionnaires qui sont complets et qui sont en réalité des thésaurus. Et à l'heure actuelle, le jeu a été de faire l'index des traductions modernes pour pouvoir voir quels sont les termes et les concepts qui existent en babylonien et en assyrien. Et si on prend les termes qui sont considérés comme désignant peindre, eh bien, on se rend compte en réalité que chaque fois, il faut nuancer, c'est le cas de le dire, la traduction. Le premier terme, Eberum, en réalité, signifie farder. Ça signifie peindre la face, et étymologiquement, le terme est rattaché à des mots arabes qui signifient le grain de beauté ou la cicatrice. Le deuxième terme, Ukum, signifie lui aussi farder les yeux, et son dérivé, tekitum, signifie un prétexte. Voilà quelque chose qui est facile à comprendre. Et sinon, il signifie enduire de peinture, et vous avez les expressions que je vous ai citées ensuite, qui sont du sumérien, le sumérien étant romain alors que le sémitique est en italique. Il y a un vase dont le dessus est peinturduré, gungunu, et une porte, un ventail, gishig, dont le devant, igi, gungunu, est aussi peinturduré. Le deuxième terme qui signifierait peindre, c'est celui qui s'appelle shamatoum, c'est le terme shamatoum, qui est en réalité faire une marque avec de la peinture. Tout particulièrement sur les animaux, on prend un animal, on lui fait une marque de couleur qui permettra de l'identifier et de le remettre dans le troupeau quand les troupeaux ont été mélangés à la pâture. Sinon, eh bien, il y a les termes qui signifient appliquer de la peinture sur une surface, c'est-à-dire la patoum, enduire d'une matière, éventuellement, ça peut être autre chose que de la peinture, ça peut être de l'huile, n'est-ce pas ? Ou bien nadoum, qui est déposé sur une surface. Et ce qui est absolument remarquable, c'est que la quatrième catégorie qui signifierait peindre revient en réalité à dire apporter la touche finale à l'objet. C'est kutum, qui est la façon normale de dire finir une œuvre. Et voici deux exemples qui donnent l'emploi de ce terme. Dans le poème de Ergal, Nergal et Ereshkigal, le dieu Ea a peint la chaise en blanc, en bleu et en jaune, l'œuvre terminée, toute la chaise. Et dans le signalement lyrique, qui est un des joyaux qui a été retrouvé à Ougarit, ma mère, dit celui qui parle, est une statuette d'albâtre, une figurine en ivoire peinte, et le terme employé signifierait en réalité en ivoire fini, pleine de charme. Un objet qui n'est pas fini est un objet en acadien qui n'a pas de la peinture sur lui. Alors, s'il n'y a pas de terme pour peinture ou pour tableau, eh bien, en revanche, beaucoup de termes se ramènent au procédé de la teinture, qu'elle soit celle des réalia ou des artifices de la séduction. Il y a très peu de termes qui désignent une chose vue, et la teinture des peaux peut être comprise aussi bien comme celle du teinturier que des animaux de la nature. Alors, il existe naturellement des représentations dessinées et coloriées. Et vous savez que parmi les plus célèbres, se trouve ce qui a été retrouvé dans le palais de Marie. Je vous en montre deux. Peinture de Marie, le sacrifice. Je vous demanderai simplement de regarder comment les yeux sont faits et comment les épaules se présentent. N'est-ce pas ? C'est tout sauf du babylonien. Ce n'est pas comme ça que ce ne sont pas les critères acadiens. Et voici la deuxième peinture de Marie qui est l'investiture. Ces œuvres, naturellement, je vous les présente, je n'en parlerai pas dans le détail parce que cela excéderait mes compétences. Or, il est certainement significatif qu'aucun des 25 000 lettres de texte de Marie ne parle des peintures qui ornaient la cour de Marie et qui représentent aujourd'hui un unicum dans l'histoire de l'art. On a beau essayer de chercher, il n'y a aucune allusion faite à cette réalité qui est à l'heure actuelle quelque chose qui est parmi les trouvailles les plus flamboyantes qui ont été faites de tel Hariri. Ce qui est d'ailleurs le plus remarquable, c'est que Si vous regardez le palais de Marie, vous avez les peintures que je viens de vous montrer se trouvent là où c'est marqué M, dans ce qu'on appelle la cour du palmier, et vous avez la deuxième grande cour, la grande cour par laquelle on entre dans le palais et qui est marquée B. Eh bien, la cour du palmier n'est pas appelée du nom de ces peintures magnifiques que l'on a vues auparavant. Ce n'est pas comme cela. En revanche, la cour A, la cour B, s'appelle la cour du bâtiment aux peintures parce qu'il se trouve, c'est le petit bâtiment que vous avez du côté gauche sur cette cour B. Si j'avais un pointeur, je vous l'indiquerais de façon plus précise, mieux. C'est le temple aux peintures qui est appelé la chapelle de Eshta. À l'heure actuelle, la lecture des textes de Marie nous a montré qu'il y avait identification complète entre la chapelle d'Eshta et le bâtiment aux peintures. Eh bien, c'est quelque chose qui, pour nous modernes, est incompréhensible. On aurait plutôt appelé la cour du palmier, la cour des peintures, vu les peintures qui y étaient représentées sur le mur, et pas la cour d'entrée ainsi. À côté, les peintures de Marie étaient un unicum jusqu'au moment où plusieurs autres peintures ont été trouvées, tout particulièrement les peintures autel Sacca à côté de Damas, dont je ne peux pas vous montrer de représentation, en même temps que les peintures de Tilbarsip, que vous voyez ici, et qui sont beaucoup plus tardives, puisqu'elles sont du 8e siècle après le Christ. Ce bâtiment du Bit Birmi ne pose plus de problème d'identification maintenant, d'après la consultation des textes, mais ça signifie la maison des Birmou. Birmou est un terme, on va le voir, qui est très compliqué. Ça signifie les étoffes bariolées. Le CAD, c'est-à-dire l'Université de Chicago, dans son tome B, vous dit le sens est incertain. On ne comprend pas cette expression. Et le dictionnaire de Marbourg, le AHV, ne mentionne même pas l'expression. Voici comment elle se présente. Ce sont simplement deux bandeaux qui représentent, qui ont été trouvés d'ailleurs en fort mauvais état de conservation. La première, une déesse qui se présente devant la déesse Eshtar, et le deuxième, un sacrifice fait par un roi avec une déesse derrière lui à un dieu barbu auparavant. Il n'y a pas tout ce qui est le babylonien de renseignements sur le physique, et si ce n'est par le fait que certains noms sont suivis par des sobriquets. Le seul roi sur lequel nous connaissions quelque chose, c'est le roi d'Egalatum, parce que l'on nous dit que c'était un homme qui était en mauvaise santé, qui était boiteux, qui était une sorte de sous-homme, n'est-ce pas, par rapport aux autres rois et ses congénères, qui devaient être certainement de meilleurs représentants de la race masculine. Or, cela est d'autant plus étonnant qu'il n'est pas de portrait, c'est que lorsque l'on regarde les rares statues qui nous sont restées, on voit tout à fait, je vous montre ici Ishtup-El ou Ishtupilum de Marie, on voit tout à fait que c'est un individu, il n'est pas stéréotypé, n'est-ce pas ? On voit tout à fait qu'il doit y avoir une ressemblance entre la personne qui a été représentée et sa représentation. Et cette volonté de vérisme qui fait que l'on représente l'individu d'une façon comme il était, nous est prouvée par une lettre de Marie, dans laquelle le roi de Marie, elle n'est pas encore publiée, mais elle va l'être bientôt, le roi de Marie dit qu'il veut faire représenter son grand-père avec son fils aîné, qui porte le même nom, selon le procédé de la paponymie, et il dit, il n'y a pas de problème pour représenter mon grand-père, car l'artiste à qui j'ai demandé de faire la représentation l'a connu. Si le roi souligne le fait que l'artiste a vu son grand-père à la fin de sa vie, c'est que manifestement, il ne sera pas représenté d'une façon stéréotypée, sur une façon obligée, mais d'une façon véridique. Alors, le terme qui représente le mieux pour nous peinture, en réalité, c'est le terme « birmoum », celui que l'on a dans le bâtiment aux peintures, livré par Marie et que représentait tellement de difficultés pour les dictionnaires. Le terme de « birmoum » était très très bien connu auparavant, mais avec un sens très limité, qui était celui de tissage d'étoffe avec des couleurs différentes. Vous le voyez dans la traduction des deux dictionnaires qui concordent tout à fait. Et en réalité, le terme « birmoum » fait penser immédiatement, il fait partie de la racine « brm », il fait penser au verbe « baramoum » qui signifie effectivement « être de plusieurs couleurs », mais le dérivé de Baramoum, selon les principes d'une langue sémitique, qui est Birmoum ou Burmoum, signifie non seulement peinture, mais aussi fait d'apposer son sceau. Et je ne suis pas sûr du tout que les efforts que les deux dictionnaires ont faits pour distinguer deux verbes, l'un signifiant être de plusieurs couleurs, l'autre de apposer son sceau, soient bonnes. Pourquoi ? Parce que, en réalité, quand vous apposez un sceau, eh bien, voici le sceau de Moukanishoum, vous apposez une scène. Il n'y a pas simplement le nom de la personne, mais il y a l'individu. Alors, je vous le fais en dessin pour que ce soit plus clair. Vous avez le sceau de Moukanishoum, qui signifie celui qui terrasse, sous-entendu les ennemis. Vous avez le roi qui s'avance sur les ennemis qui sont amoncelés, avec des divinités de part et d'autre qui le saluent. Alors, cela est le verbe baramoum lui-même, que vous avez ici, eh bien, non seulement signifie apposer son sceau, mais aussi on a des emplois très nets de représenter une scène. Et dans tout particulièrement, le verbe est attesté pour représenter de la sculpture de l'Ouartou quand les Assyriens sont arrivés et ont vu ce que c'était. Alors, ce que je pense à l'heure actuelle, c'est que Baramoum, le numéro 2, théoriquement, qui signifie apposer son sceau, n'est que le dénominatif du terme Birmoum et signifie en réalité appliquer une représentation. Nous avons d'autre part la preuve, par des documents absolument certains, que les représentations des sceaux sont exactement identiques aux représentations des bas-reliefs qu'il y avait en tant qu'or à l'époque. Et Jean Nougarol avait fait à un moment donné une grande exposition représentant ce qu'il avait appelé des bas-reliefs imaginaires avec des représentations très agrandies de sous-cylindres et qui représentaient des œuvres qui devaient être perdues. Si vous regardez d'autre part la représentation du bit birmi que je vous avais montré tout à l'heure, eh bien, vous voyez la scène d'en bas, le roi qui la divinité derrière lui qui se présente devant le dieu barbu. C'est exactement la scène que vous avez ici, ce que j'ai appelé le sceau de présentation numéro 1, où vous avez le roi qui se présente devant le dieu assis, avec la divinité intercessrice qui intercède pour lui derrière. Vous voyez, c'est absolument pareil. Les deux registres correspondent tout à fait. Et c'est une scène qui est absolument banale, que la divinité assise, là, dans celui qui est représenté, qui est non pas un sceau de roi, mais de marchand, la divinité amène avec elle le Laurent. Alors, ce qui est intéressant, c'était ce sens de colorier qui signifie en réalité finir. Et on considérait que l'objet n'était fini que lorsque la couleur était mise dessus. Alors, c'est ce que l'on représente dans une des œuvres les plus connues de l'art mésopotamien et qui représente la porte d'Eshtar qui se trouve à l'heure actuelle transportée au musée de Berlin. Voici comment Nabucodonosor II, roi de Babylone, l'a décrit lorsqu'il parle de cet ouvrage. « Je rebâtis avec art, en brique cuite à glaçure de pur lapis lazuli, sur lesquels étaient faits des taureaux sauvages et des dragons. » Les dragons, les voici comment ils se représentent. Cependant, naturellement, ces œuvres-là, on peut toujours se demander dans quelle mesure les couleurs ont été employées. Il est bien évident que ce n'est pas au petit bonheur, ce n'est pas uniquement un souci d'esthétique. Il devait y avoir une idée majeure derrière, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas le tirer du texte de Nabucodonosor II. Je rebâtis avec art, c'est-à-dire qu'il a fait quelque chose qui plaît. Mais avec des briques cuites à glaçure de pur lapis lazuli, ça veut dire bleu, la lazuli était bleue. Mais quelle était la volonté qui était derrière et la symbolisation, c'est quelque chose qui nous échappe complètement. Alors, il est vraisemblable que le paysage mésopotamien devait comporter plus de couleurs qu'on en voit aujourd'hui. Et on nous dit à l'heure actuelle que le Parthénon était plein de couleurs, que l'art roman était plein de couleurs, alors qu'en réalité, très souvent, on admire pour leur dépouillement ces œuvres et on a mal à les imaginer peinturlurées. Bon. Il était certainement semblable, les choses étaient semblables certainement en Mésopotamie, mais le seul texte réellement explicite à ce sujet est comme naturellement un texte d'Hérodote. Et quand il vous parle des murailles d'Ecbatane, qui étaient au nombre de 7, avec chacune d'une couleur particulière, ben on ne peut qu'admirer le texte en se demandant comment se présentaient les ziggourats en Babylonie ou les palais, même si on a trouvé encore des traces de peinture certaines sur les bas-reliefs des Assyriens. L'utilisation de la couleur dans les sentiments représentait un sujet qui était en réalité très lourdement philologique. Et c'est pour cela que je n'ai pas voulu vous l'imposer. J'ai préféré vous présenter le problématique de la couleur et du peintre en Mésopotamie. Mais si l'on regarde l'utilisation de la couleur dans les sentiments, on se rend compte qu'aucune couleur n'est en réalité socialisée, comme on pourrait dire. C'est-à-dire que le noir ne sert pas au deuil. Il n'y a pas de couleur du deuil. Comment est-ce que les gens s'habillaient? Eh bien, ils devaient certainement, au contraire, se raser la tête, montrer les signes d'affliction, se déchirer les habits. Il n'y a pas de couleur particulière. Le rouge, alors tout le monde pense à la pourpre impériale. Rien ne le prouve en Mésopotamie. Aucune couleur ne souligne la noblesse. Quand on veut marquer le rang de quelqu'un, on lui donne un siège particulier, on lui donne un sceptre, on l'appelle d'une certaine façon, tout particulièrement la troisième personne. Le roi de Marie, avec son sceptre, porte aussi un bonnet cousu de pierres auspicieuses, qui ne semblent pas du tout être particulièrement flamboyantes. On voit que Esarhaddon, le roi d'Assyrie, garde encore précieusement dans ses trésors les scapulaires du roi Hammurabi de Babylone. On se rend compte qu'en réalité, les ornements ont une valeur symbolique, mais pas par elles-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas à cause de leur beauté ou leur chatoyance que les objets soient élus. Et tout particulièrement se pose le problème de Rouchoum, qui signifie théoriquement l'or rouge. Est-ce que le roi porte du rouchoum pour signifier son rang ou bien simplement parce que c'est quelqu'un qui est capable de se l'acheter? Et il est vraisemblable que la deuxième explication est la meilleure, parce que l'on voit d'autres personnes qui sont capables de porter le rouchoum et qui n'ont pas un rang particulier dans l'État. On ne voit pas la reine, par exemple, porter du rouchoum. C'est un terme mal établi qui signifie l'or rouge. On peut penser que ce sont des applications d'objets en or rouge particulièrement précieux sur de l'étoffe, ou bien que cela signifie la pourpre. Ce qui est en réalité caractéristique, c'est que la couleur est utilisé dès ce moment-là pour signifier les oppositions raciales. Voici voici le texte le plus clair. C'est « Puisse ton Dieu ainsi... » Alors on écrit au roi de Marie en lui disant, au moment de l'invasion des Élamites, « Puisse ton Dieu ainsi que Dagan briser l'arme des Élamites. S'ils arrivent jusqu'au royaume de Marie, ne se distingueront-ils pas comme des rimatum de la berge, qui l'un est couleur claire et l'autre couleur sombre ? Certes, on dit « telle ville est Bensimalite et telle est Benjaminite, mais leur affrontement n'est-il point comme la crue du fleuve qui fait se rencontrer l'eau d'amont à celle d'aval ?» Benjaminite et Bensimalite, ce sont les deux grandes tribus bédouines qui s'opposent comme étant les fils de la gauche et les fils de la droite, mais en réalité sont unitaires et sont deux rameaux séparés de la même branche. Les Élamites vont s'en distingueront comme des rimatoum. Alors, comme c'est un bédouin qui écrit, il emploie un terme qui est extrêmement clair en sémitique. Rima, ça signifie quelque chose qui vole, une fourmi ailée en araméen, un papillon dans d'autres langues, etc. Ce n'est pas un mot courant. Ce n'est pas un mot courant et il nous aurait fallu pouvoir demander à ce bédouin ce qu'il entendait de façon précise par rimatum. Ce qui est évident, c'est que d'un côté il y a la couleur claire, de l'autre côté la couleur sombre. On va les distinguer tout de suite. Ils ne sont pas du tout comme nous. Ce qui compte en définitive, vous le voyez ici, couleur claire et couleur sombre, ce sont des questions d'intensité de couleur. Et ce à quoi on fait attention, c'est l'éclat, mais tout particulièrement à l'altération. Alors, Landsberger avait écrit une phrase qui restait malheureusement très célèbre chez nous. Pour les Sumériens, jusqu'à l'époque de Goudéa, c'est-à-dire à la fin du troisième millénaire, le ciel était vert. Et cela me rappelle, lorsque j'étais jeune étudiant, on nous parlait de M. Vandriès qui disait... Les Bretons, je m'excuse auprès des Bretons, mais je n'y vois pas malice, les Bretons ont le même adjectif pour désigner la couleur du ciel et la couleur de l'herbe. Bon, c'est-à-dire que ne peuvent-ils pas les distinguer ou bien est-ce une façon d'énoncer les choses? Il est bien évident que ce que Landsberger traduit par « vert » ici, nous le comprenons de couleur pâle à l'heure actuelle, n'est-ce pas, que simplement la traduction a un petit peu changé. Alors, ce qu'il faut, c'est que l'emploi des couleurs ne doit pas être considéré au pied de la lettre, mais dans une perspective étymologique, mais uniquement dans l'aura qui s'en dégage. Par exemple, d'un homme qui a perdu son fils, on dit « panouchoui slimou », c'est-à-dire son visage est devenu noir. C'est effectivement une façon traditionnel de traduire tsalamoum est le verbe qui signifie noir. On parle des, sauf le respect dû au roi, des ânes noirs en employant cette racine, etc. Mais ça veut dire simplement qu'il est malheureux. Il est malheureux. Et il faut traduire, je préfère à ce moment-là traduire par s'assombrir pour garder l'image que de devenir noir, qui est une image qui, prise à la lettre dans d'autres contextes, va beaucoup trop loin. Et l'opposition, c'est panouchou navrou. Eh ben, son visage devient joyeux et devient clair. Et cela est à la source de la disparition des navroum qui signifiaient théoriquement blond, comme Achille le blond, n'est-ce pas, pour signifier qu'on allait dans le nord de la Syrie prendre des esclaves dans des ethnies qui avaient une couleur de cheveux différente des sémites du sud. Et les esclaves blonds qui étaient très cotés sur les marchés de Babyloniens, sont devenus maintenant des esclaves en bonne santé. Là encore, cela a changé. Le dernier exemple que je vous montrerai est celui de rouge. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on est rouge de soleil ou rouge de honte? Voici le texte. « Le roi a décidé de faire route, et toi tu envisages de manger, de boire et de dormir, mais pas de m'accompagner. » Rester inactif et couché ne te fait pas rougir. Et la deuxième traduction de ce passage est absolument, pourrait être aussi bien, non pas ne te fait pas rougir, mais cela ne te donnera pas un teint hâlé. Alors vous me direz, on dirait un jeu de mots, mais C'est un bédouin qui écrit, mais ce sont des bédouins qui sont très acculturés à la culture babylonienne et qui font beaucoup de jeux d'écriture, qui pratiquent le double entendre d'une façon constante. Et on fait une leçon morale à quelqu'un, il reste dans la maison avec ses femmes, et à ce moment-là, on voit tout de suite qu'il a le teint clair comme celui d'une femme, et il n'a pas le teint hâlé de l'homme normal qui vit dehors, qui est un sportif et qui a le soleil qui lui brûle la peau. Mais en même temps, on voit apparaître l'image qui est rougir de honte. Est-ce que ça ne te fait pas honte d'avoir une peau non hâlée ? La traduction est absolument impossible, à moins de garder, est-ce que ça ne te fait pas rougir de rester chez toi ? À l'heure actuelle, les citadins que nous sommes ne pourraient pas employer de telle façon. En conclusion de ce bref exposé, vous voyez que la Mésopotamie se caractérise avant tout par l'art du dessin et de la gravure, et nous ne pouvons plus en majeure partie en apprécier l'aspect coloriage. La documentation textuelle est très difficile à manier, car elle ne note que l'altération d'une norme que nous ne pouvons plus que rarement apprécier. Alors, il est possible que les peintures retrouvées soient bien des témoins rares, contrairement à ce que l'on pense, c'est-à-dire que l'on passe de la couleur sur des objets déjà faits, à mon avis, on le faisait cela partout. Mais la peinture qui est à Mari ou à Tel Barsip ou à Tel Saka, c'est une réalité de l'Ouest, et cela au contact d'autres civilisations, et qui ont pratiqué la couleur et la peinture d'une façon beaucoup plus grande que la Mésopotamie. Vous voyez à quoi je pense, tant du côté de l'Ouest que du côté de l'Est. Et je me demande si ces influences étrangères qui ont permis de faire de la peinture en Syrie de l'Ouest n'est pas en réalité ce qui explique qu'il n'y ait pas en Mésopotamie de termes particuliers pour peintre et pour peinture.
Vous venez d'entendre la communication de Jean-Marie Durand, professeur au Collège de France et membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, intitulée « La couleur comme expression du sentiment ». Dans le cadre du colloque de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, « Voir et concevoir la couleur en Asie » qui s'est déroulé en janvier 2013. Retrouvez la suite des interventions de ce colloque sur Canal Académie.